L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Colin Thibert, ou Pierre Colin Thibert, de son vrai nom Léon Noël, est un scénariste, auteur de romans policiers et auteur pour la jeunesse française. Il est né le 29 janvier 1951 à Neuchâtel. Il a signé des pièces radiophoniques, une pièce de théâtre et il est un ancien dessinateur de presse. Voilà ce que vous pouvez lire sur Wikipédia. Mais en fait, à lire une saison à Montparnasse publiée chez Héloïse d'Ormesson, on comprend d'abord, Colin Thibert, que vous êtes un conteur. Et vous aimez raconter. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on est entre Fourvière, vous pouvez nous écouter sur 88.4, et Radio Notre-Dame sur 100.7. Il y a d'abord, on entre tout de suite chez Madame Ernest, la concierge, veuve de guerre, véritable dragon, qui rappelle un peu René, 54 ans, concierge du 6 rue de Grenelle. C'était L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Mais alors, elle est terrible, Madame Ernest, mais touchante. Et on est tout de suite happé par le livre.
Alors oui, Madame Ernest n'est pas l'héroïne du livre.
Non,
mais
c'est l'introduction.
C'est l'introduction, et je me suis dit après, c'est un peu Virgile conduisant Dante aux enfers.
En fait. Oui.
Voilà, elle a ce rôle-là, elle a ce rôle, et en même temps, Cerbère, enfin voilà, on est dans les... Finalement, il y a des choses qui sont...
C'est le contraire de Gabriel ? C'est l'inverse ?
Je ne l'ai pas pensé comme ça. Ouais. En fait, quand j'ai décidé de placer cette histoire à Montparnasse, je me suis souvenu d'une concierge que j'avais bien connue quand j'étais tout petit, qui a existé, qui s'appelait Madame Simon,
qui était concierge
rue du Four, et qui était un personnage incroyable, qui vivait dans une loge. C'était ce que je décris là est peut-être plus doux que la réalité de Madame Simon. Et c'était une femme étonnante, alors d'une gentillesse, d'un dévouement absolu. Et ça m'avait frappé, on m'avait dit, elle n'a jamais quitté le 6e arrondissement, elle n'est jamais allée plus loin.
Oui.
Donc j'ai repris un peu tous ces éléments pour Madame Ernest.
Parce que c'est un personnage truculent, Madame Ernest. À la fois pleine de préjugés, mais touchante. C'est vraiment le gardien de tous les personnages qui passent dans cet immeuble et dans cette rue.
Alors, oui. L'histoire, ce n'est pas Madame Ernest, c'est l'introduction de Madame Ernest, c'est comme vous le disiez, c'est Gabriel. Alors Gabriel qui va être pensionnaire chez les Clarisses, et en une phrase, vous résumez tout, Gabriel quitta les Clarisses, riche d'un honnête bagage intellectuel et d'une petite expérience saphique. Voilà, tout est dit. J'ai trouvé ça merveilleux. En début de roman, vous nous donnez toutes les clés presque.
Voilà.
Donc ouais. elle arrive à Paris, au 23 rue du Guétrouin. Pourquoi le 23 de la rue du Guétrouin ? Vous avez une adresse spéciale pour vous ?
Parce qu'il n'existe pas.
Ben voilà, c'est ce que j'ai cherché sur... et je ne l'ai pas vu, je cherchais l'immeuble. Mais il y a tellement d'hôtels et de meublés, rue de l'Ambre ou rue de la Gaîté. Vous voulez que Gabriel fût un peu en marge de Montparnasse ?
Un petit peu, oui, parce qu'elle ne vient pas vraiment de ce monde-là.
Elle est tout le temps dans la marge.
Elle a de l'argent, contrairement à beaucoup d'autres qui, à l'époque, évidemment, devaient se contenter de garnis plus ou moins sordides et bon marché. Là, Gabrielle a de quoi louer un appartement, elle a des rentes. Mm-hmm. Donc, elle va s'installer. Et en plus, comme la famille veille quand même un petit peu de loin, ils veulent qu'elle soit dans un endroit un peu bourgeois. Un peu...
Alors, c'est une famille de Lyon.
Oui.
Dans la soie.
Absolument.
Bourgeois.
Très.
Cato.
Très.
Son parrain, c'est l'abbé Mignon.
Mijot, pardon.
qui veille sur son âme comme sur sa conscience.
Oui, qui est aussi. Alors, pour moi, l'abbé Mijot, c'est peut-être plus le pendant de Madame Ernest, finalement. C'est un homme. Il est fondamentalement sympathique, fondamentalement naïf.
Bon, il est bon.
Il est bon. Il cherche à faire le bien, évidemment. Et ça ne va pas toujours marcher.
Myrna.
Alors moi, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. J'ai trouvé une langue pleine de gouailles. J'ai beaucoup ri. J'ai aimé être immergée dans ces expressions de Titi, vraiment dans ce Montparnasse des années 20. Et j'ai trouvé plusieurs thématiques qui, en fait, traversent tout le roman. Donc, en premier lieu, l'art, que vous avez vraiment utilisé comme un fil rouge. C'est la passion de votre protagoniste, Gabriel. C'est le moteur qui l'a fait arriver à Paris, justement, pour étudier la peinture. L'art lui ouvre les portes de nombreuses amitiés très diverses, j'allais dire. Elle qui vient justement de son couvent de Clarisse. Et puis quand elle est au plus mal, c'est aussi la peinture qui va l'aider à retrouver une certaine sérénité. Alors Colin Thibert, je voulais vous demander, pour vous, que peut l'art ?
Eh bien, il peut beaucoup, justement. Vous l'avez bien résumé. C'est quelque chose qui vous sauve quand même de bien des vicissitudes. Que ce soit la peinture, la musique. Enfin, la peinture, pour moi, la musique, malheureusement, n'est pas mon domaine. Mais on peut y puiser à la fois réconfort, espoir. Oui, pour moi, c'est absolument indispensable, effectivement.
Et à Montparnasse, l'art est toujours lié à l'amitié.
Ben, en tout cas, à cette époque-là,
c'est fabuleux.
Tout ce que j'ai pu en lire, il y avait cette espèce d'incroyable foisonnement, de croisement. Alors, pas que l'amitié, il y en a qui se haïssaient profondément, mais ça crée du lien, on va dire. On dirait
ils se retrouvent à la Brasserie du Dôme, ils se retrouvent en face à la Rotonde, ils se retrouvent dans tous ces lieux qui existent toujours aujourd'hui, mais qui sont... Alors, on parle souvent de bohème, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est un style de vie, mais c'est aussi une quête permanente esthétique.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais il cherchait, il y a quand même eu des... Oui,
Dans la Soutine, Modigliani, voilà, Giacometti, ouais. Van Gogh, enfin, ils sont tous là.
Van Gogh, c'était un peu avant.
Mais il y a une plaque de l'ombre. C'est pour ça que je parle de Van Gogh. Ah. Il était dans l'hôtel. Il était dans un des hôtels de la rue de l'ombre.
On sent en tout cas une véritable ébullition d'inspiration, de voilà, rencontres
Paris,
artistiques.
Paris était vraiment le centre du monde d'un point de vue artistique à cette époque-là.
Ah oui. Ben on a Montmartre avant la Première Guerre mondiale et on a Montparnasse après la Première Guerre mondiale.
Voilà.
Donc je recommande, si c'est toujours d'actualité, au Petit Palais d'aller voir Paris la modernité, cette exposition formidable qui traite de tout ça. Alors, votre personnage, Gabrielle, elle va courir un peu comme la petite chef de Monsieur Seguin, au milieu des arbres, mais là c'est au milieu des bistrots, au milieu des forêts, mais là c'est au milieu des avenues, et puis elle va tomber amoureuse.
Et oui,
c'est bien normal, c'est bien son âge.
D'un autre personnage féminin, très fort, la fougueuse Marcel.
Voilà, à partir de là, alors Marcel est un peu effectivement l'opposé de Gabrielle.
Ah oui, c'est ça, c'est le contre-pied.
D'un point de vue social, elle est d'un milieu simple, elle travaille assez durement d'ailleurs. Et voilà, et entre ces deux femmes, il y a une vraie histoire d'amour qui va se développer.
Qui est l'excuse pour en fait poser une question que j'ai trouvée passionnante. C'est une réflexion sur les possibilités de choix dans la vie d'une jeune femme de bonne famille à cette époque-là. En réalité, parce que, vous l'avez dit, Gabrielle a la chance de venir d'une famille bourgeoise, donc elle vit une relative indépendance quand même.
Chance ou malchance ?
Oui, enfin bon...
Oui, on peut le voir effectivement. De...
Oui.
Là, en l'occurrence, dans la première partie du...
Il y a une malchance spirituelle.
Dans la première partie du roman, disons que c'est plutôt une chance pour elle. Et donc, je me suis demandé si justement cette réflexion-là, c'était important pour vous de le souligner, particulièrement par rapport à son choix pour une si jeune femme, quand même très décidée, dans cette relation avec Marcel.
Alors, je dirais d'abord que c'est plutôt Marcel qui a choisi Gabrielle que l'inverse.
Oui, c'est vrai.
C'est Marcel qui mène le jeu. Marcel, elle est assez délurée, elle a de l'expérience. Et bon.
Un peu prédatrice.
Prédatrice, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, bon, c'est elle qui a mené le jeu,
c'est certain.
Et oui, alors la différence entre les deux femmes, je m'en suis servi pour quelques scènes amusantes, dont cette histoire de bal où on peut le raconter, je pense, sans trop dévoiler, Marcel va s'habiller en homme, ce qui va provoquer par la suite un nouveau scandale. Mais voilà, c'était effectivement. Des portes s'ouvrent pour Gabrielle, elle découvre tout ce monde dont elle ignorait à peu près tout, et tout semble permis, tout semble possible. Je parle à un moment aussi du champagne, dont elle a tendance à boire énormément. Voilà, c'est toute la vie est pétillante, c'est formidable.
C'est la fête, c'est la kermesse.
Paris est une fête, disait Hemingway. Voilà, c'est ça.
Mais il y a un revers que vous donnez à un moment.
Le revers, c'est que la famille derrière ne va pas l'entendre de cette oreille, et qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, une jeune femme de ce milieu-là, à cette époque-là, est quand même soumise à pas mal de choses. On a essayé de la marier, Gabrielle.
Oui,
ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, elle s'est débattue la corde d'une manière assez subtile d'ailleurs, sans s'y opposer frontalement. Mais voilà, elle ne pourra pas aller jusqu'au bout de ses rêves, ça c'est certain.
Alors une fois que la famille lyonnaise bourgeoise dans la soie se rend compte que ses amours sont un peu illicites, on va dire, les frères Berthelon, parce qu'elle a deux frères, vont vouloir s'occuper un peu pour remettre de l'ordre dans les mœurs de leur sœur. Mais il y a le parrain qui est là, le bon abbé, qui va essayer de temporiser.
Alors oui, le bon abbé, lui, a essayé de limiter les dégâts, on va dire, limiter la casse. Alors, c'est un roman un peu difficile de parler de certaines choses sans tout dévoiler, évidemment, parce que, quand même, il faut quand même laisser au lecteur le plaisir de découvrir certaines péripéties, surtout vers la fin du livre. Mais l'abbé a essayé d'arranger les choses, et les frères, bon, il n'arrivera pas au bout de son plan, parce que, voilà, la mort va le saisir. Les frères, en revanche, eux, vont régler le problème à leur manière, qui est d'une brutalité sans nom.
Oui. Et là, vous vouliez parler de votre grand-père.
Alors, mon grand-père.
Ellipse.
Ellipse.
Et nous nous retrouvons en Suisse.
Et nous nous retrouvons à Neuchâtel.
Voilà, l'idée de départ de ce livre était... Je m'étais dit, je vais écrire quelque chose sur mon grand-père, qui dirigeait un asile psychiatrique pendant une dizaine d'années du côté de Neuchâtel. C'était le point de départ. Donc, je suis allé, j'avais quelques histoires familiales, pas grand-chose. Je suis allé aux archives de la ville de Neuchâtel. J'ai trouvé pas mal de choses, rien sur la psychiatrie, mais beaucoup de choses de détails pratiques sur la vie de l'époque, etc. Et je me suis dit, non, il n'y a pas de quoi faire un roman. C'est intéressant, c'est amusant, c'est plaisant, mais ce qui m'aurait intéressé sur la psychiatrie n'existe pas. Les dossiers restent confidentiels, apparemment scellés à jamais. Puis bon, en plus, c'est pas mon domaine de compétence, je suis pas médecin, est-ce que j'aurais su parler de tout ça? Et puis petit à petit, je me suis souvenu que mon grand-père avait une sœur, que je n'ai jamais connue, qui était morte bien avant ma naissance. Sœur qui était, disait-on, dans la famille, un peu spéciale.
Mais mère... parlez-nous de Claudel.
Ma mère avait
un peu spéciale, donc indépendante, c'est ça?
Oui, indépendante, voilà. Et qui ne s'était pas mariée. Qui menait sa vie à sa façon.
Comme elle l'entendait.
Faisait de la peinture, fréquentait des poètes ou je ne sais qui. Enfin voilà, il y avait une espèce de petit parfum de scandale autour de cette femme qui était un peu, alors là plutôt simplement un peu effacée, un peu oubliée. Et puis voilà. Et tout d'un coup, ce fantôme a surgi. Je me dis, mais voilà l'histoire qu'il faut raconter, c'est celle de cette femme. Alors que tout était évidemment imaginé.
Bien sûr, évidemment.
Je n'ai aucun élément précis sur la vie de ma grand-tante.
Non, parce que c'est pas du tout biographique. Votre livre est le parcours d'une femme dans Montparnasse. Alors c'est une histoire, je disais en début d'émission, que vous êtes un conteur et un vrai conteur. Et moi, je pense un peu à Pierre Lemaitre. Hein, quand on vous lit, il y a cette espèce de fougue, de force, de féminité aussi, parce que le personnage est absolument charmant. Enfin, on le suit dans ses fragilités, dans ses forces, dans ses erreurs. Et puis, on est pris dans le tourbillon de Montparnasse. Et ça, c'est merveilleux.
Alors justement, pour revenir à Montparnasse, par rapport à l'art dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi un autre aspect de l'art que j'ai trouvé particulièrement futé. L'art, selon le regard qu'on pose dessus, et en l'occurrence celui du docteur Lambernet, ça peut aussi être spéculation et malhonnêteté. Donc, on a ce personnage qui a une éthique et une déontologie, on pourrait dire, à géométrie variable. Et s'il est tout-puissant dans son asile psychiatrique, lui, il est tout à fait impuissant face au krach boursier de 1929. Alors, qu'avez-vous imaginé? Que va-t-il manigancer, ce docteur?
Ce docteur qui, par ailleurs, n'est pas un mauvais médecin. Il a une approche assez fine pour l'époque par rapport à d'autres psychiatres réels que j'ai cités dans leur approche de l'homosexualité. Chez certains, c'est assez
radical.
Radical. Oui. Le docteur Lambernet, il est plutôt ouvert. Il a lu Freud. Il pense que parler, créer le dialogue peut amener quelque chose. Quoi, il ne sait pas exactement. Donc, de ce côté-là, du côté médicalement, il est très bien. Sur le plan moral, c'est plus discutable.
Mais en même temps, il se fait corrompre d'entrée quand même. Hein,
bon. Oui, un petit peu. Oui, pareil, voilà. Mais en même temps, quand le crack le dépouille de la, non pas de sa fortune à lui, mais de celle de sa femme, enfin, la petite fortune modeste qui a été engloutie là-dedans. Il a une espèce de... c'est pas supportable. Il a craint de perdre sa femme à cause de ça, et il va faire absolument n'importe quoi, en fait. Et là, oublier toute barrière morale, se servir de Gabriel, enfin, c'est...
Mais finalement, tout le monde, au bout d'un moment, enfin, dans chacun de vos personnages, il y a un couvercle de morale qui saute, sauf chez les frères.
Alors, eux, ils sont droit fil dans
enfin, même ça, c'est discutable en réalité.
Oui, il y en a un qui est quand même un des deux frères qui sera sauvé, pas l'autre.
mais on sent qu'il y a un vent de liberté. Ouais. Que vous nous donnez. Alors on passe dans Montparnasse, on flâne rue de l'Ambre, rue d'Odessa, et puis revient toujours la voix de Kiki de Montparnasse, qui habita d'ailleurs au premier étage rue de l'Ambre avec Man Ray.
Et tout gosse en ce temps-là, et dame, ça nous rajeunit pas. Tu dois te souvenir, Kikine, de la galette qui abrita nos premières amourettes. À ce moment-là, t'avais 15 ans, on se fréquentait depuis longtemps, depuis toujours, depuis la maternelle, parce que c'est loin, mais pourtant je me rappelle. J'avoue franchement, c'était le bon temps, on est jeune, on est inconscient. Tu te souviens des titines des culbutes, tout là-haut sur la butte, tu étais haute comme ça, tu te venais jusqu'aux genoux. Que tu étais rosse, mon pauvre chou. Tu me cherchais des raisons, des disputes. Tout là-haut sur la butte. Tu me foutais des torgnoles, en veux-tu, en voilà. Ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Ton bonnet par un beau matin passa par-dessus les moulins. Ce matin-là, c'était un soir tout rose. Et puis l'amour, je sais pas, ça rend tout chose. Après qu'on s'est regardé tous deux, c'est drôle, mais j'avais l'air honteux. Tout s'est en règle le lendemain, ma chérie. On a fait trois fois le tour de la mairie. J'avoue franchement, c'était le bon temps et ça respirait le printemps. Tu te souviens des titines des minutes, tout là-haut sur la butte, passé à respirer le bon air de Paris. Et celui des cheminées de Saint-Denis. Il y a des trucs qu'il faut pas qu'on discute. Quand on sème, on récolte, c'est la butte. Et toi, t'as récolté deux ou trois petits salés. Et ça ne t'a pas beaucoup changé. Ben, et quand le rappel a sonné, tu te souviens que je t'ai raisonné. Je t'ai dit, ma petite gosse, il faut pas t'en faire. Tu le reverras, ton homme, après la guerre. Comment ? Ça s'arrête déjà. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? Tiens, il y a quelques mots encore au bas de la page. Ça n'est pas lui, mademoiselle du courage. Notre pauvre copain est mort ce matin. Une balle, un râle, et puis plus rien. Souvenez-vous de sa conduite dans la lutte. Tout là-haut sur la butte. Sur la butte de taillure face au casque pointu, sous la mitraille et les obus. Il repose au bord d'une cahute, quelques fleurs, une croix sur la butte. Il a fait plus que son devoir jusqu'au bout. Sa dernière pensée fut pour vous. Sa dernière pensée fut pour vous.
Eh bien, vous voyez, Myrna et Luc, Kiki de Montparnasse, ce n'est pas que des épaules, des reins, un buste et un joli minois. C'est aussi cette si jolie voix qui nous chantait sur la butte. C'est toujours très touchant d'entendre cette voix.
Ah oui, tout à fait. Cette musique sur laquelle on a quand même envie de guincher.
Mais oui, c'est une musique envoûtante, envoûtante, comme votre roman... Colin Thibert, votre roman qui se passe à Montparnasse, une saison à Montparnasse chez Héloïse d'Ormesson. Vous vouliez rajouter quelque chose ?
Tout à fait. Donc, on a évoqué l'homosexualité de Gabrielle. Et en Suisse, elle va se lier d'amitié avec un personnage que j'ai trouvé aussi très touchant du fait de ses nuances, c'est Edgar. Oui. Vous voulez nous en toucher un mot ?
Alors, Edgar est inspiré d'un personnage réel.
Ah oui,
voilà. Donc, racontez-nous.
Mais il semblerait qu'effectivement dans l'asile d'aliénés ou la maison de santé, comme on voudra.
On va appeler ça la maison de santé parce qu'on va rester politiquement correct façon helvétique.
à l'époque, bon, bref, ils étaient moins pointillés sur les mots.
Oui.
Toujours est-il qu'il y avait effectivement quelques jeunes gens dans cet endroit, il y avait quelques jeunes gens de bonne famille qui étaient là pour des raisons d'alcoolisme en général,
de drogue,
parce qu'il y avait beaucoup de drogue, oui. Pas que l'opium, il y avait même cocaïne énormément, hashish, enfin, toutes les drogues étaient déjà là, finalement. Bon, c'était plus la bonne société qui avait tendance à en abuser, mais... Et donc, ce jeune homme était là, et semble-t-il, alors ma mère qui... Alors, la famille du médecin vivait sur place, et donc ma mère a vécu sur place, et avait des souvenirs des malades les plus, enfin ceux qui pouvaient sortir, se promener dans le parc, était tout à fait fréquentable en fait. Elle, ce jeune homme la fascinait parce qu'il était beau, il était intéressant, il chantait, il jouait au piano, il chantait, je sais pas s'il peignait pas aussi, enfin bref, il avait un petit talent artistique, et il avait, on sentait dans ce qu'elle racontait une espèce de tristesse profonde. Alors l'homosexualité, c'est moi qui l'ai rajouté, on peut dire, parce que ça faisait pendant à celle de Gabriel, mais ce serait pas exclu,
vu le
personnage qu'elle décrivait. Et c'est la grande tristesse de ce jeune homme isolé là-bas, quand même, loin de Paris, loin de tout.
On n'est pas loin de la montagne magique, finalement.
Oui, tout à fait. Hein? Oui, j'y ai pensé.
Ouais, moi aussi.
Qu'on mette au banc, en fait, pour sauver les apparences dans les familles. Hein. C'est une histoire d'hypocrisie.
Ça se faisait encore, oui.
Il est réduit au silence, tout comme d'ailleurs Gabrielle, qui perd aussi toute voix au chapitre en ce qui la concerne.
Alors, elle comme femme, c'est terminé. Il n'y a rien, il n'y a aucun recours, il n'y a aucune possibilité. C'est assez terrible.
Et on sent beaucoup de sensibilité et d'élégance dans Edgar. Et justement, lui, il va être un véritable soutien pour Gabrielle. C'est lui qui va la pousser à retrouver son art, justement.
Voilà, et cette grande amitié entre Gabrielle et Edgar, c'est quelque chose qui fait partie des éléments un peu rassurants de cette
histoire, positif, optimiste.
C'est souvent dans les bas-fonds des hôpitaux qu'on trouve un ange gardien.
Peut-être, oui.
Oui, c'est pas que furieusement romanesque, c'est aussi la vie. Vous vouliez rajouter quelque chose, Myrna? Non. Moi, je voulais... on va pas tout dévoiler, mais elle va quand même être sauvée par ses pinceaux.
Oui.
Et elle va être sauvée par un drôle de regard, un peu conduite d'ailleurs par le psychiatre, qui va être de la copie.
Tout à fait.
C'est la manigance que j'évoquais tout à l'heure.
Voilà.
La copie est un très bon exercice pour un peintre, de toute façon.
Ils le font tous.
C'est important, etc. Après, il faut que la copie, a priori, reste une copie.
Oui.
Si la copie a tendance à devenir un original, c'est embêtant.
Oui. Et alors là, encore une culpabilité de moins, encore une notion morale de moins. Enfin, on y va.
Oui, à un moment donné, et c'est vrai qu'après tout, on peut se poser la question, si le tableau vous plaît, vous êtes l'acheteur, le tableau vous plaît, vous le trouvez magnifique, après tout, est-ce que c'est si grave que ça, que ce ne soit pas l'original de la main du maître? Il est faussaire, alors j'ai lu beaucoup de biographies de faussaires à une certaine époque, je voulais vraiment faire quelque chose là-dessus.
On sent que vous connaissez le sujet.
Et les faussaires disent, mais après tout, l'important, c'est le plaisir qu'apporte le tableau. Le reste, on s'en fout.
Ouais, enfin, le zéro de plus sur le chèque.
Oui, mais dans ce cas-là,
on ne signe pas. Alors voilà, il y a toujours l'argent qui vient...
C'est toujours ça le problème, qui vient polluer cette affaire. Mais parce qu'au départ, c'est un vrai plaisir pour Gabrielle.
Toute façon, elle n'est pas,
elle n'est pas
au courant de ce qui se passe. Oui, donc, bien sûr, c'est un plaisir. Ça
c'est
l'intéresse, ça lui redonne la joie de vivre, de travailler, de faire quelque chose de... Voilà. Elle ne sait pas qu'elle est totalement manipulée dans l'histoire.
Parce que Lambernet va à Paris, dans les musées, recopie dans son petit cahier de croquis les signatures des plus grands maîtres et s'amuse à apposer lui-même, tantôt à droite, tantôt à gauche, la signature des plus grands.
Voilà, c'est un tour de passe-passe assez simple. Alors j'ai chez moi une toute petite toile, c'est pas une toile, c'est un morceau de bois peint à l'huile que je trouve très joli, qui est signé Eugène Boudin.
J'ai le même.
Et en fait, il se trouve que j'ai croisé il y a quelques années un expert de Boudin, à qui j'ai soumis évidemment le tableau, qui m'a dit non, il est très mignon, mais c'est juste l'antiquaire qui a signé Boudin. C'est pas un Boudin, parce que Boudin ne peignait pas sur ce genre de support, etc. Il n'empêche que ce tableau, il est chez moi, il est accroché, je l'aime beaucoup, j'ai plaisir à le voir tous les jours. C'est pas très grave que ce soit pas un boudin. Voilà, donc il ne vaut rien.
Si vous l'avez pas payé le prix, si vous l'avez pas payé le prix d'un boudin, c'est bon.
Absolument.
Mais si vous vous êtes fait avoir, ben vous vous êtes fait avoir. Et alors là, en effet, il y a une espèce de folie, c'est-à-dire que ça se termine un peu par un feu d'artifice, votre roman, il faut le dire.
C'est toujours difficile de terminer un roman. Il y a un moment, il faut quand même arrêter, il faut en sortir. Et là, bon, alors, oui, on peut.
Donc, on est parti de la concierge, Madame Ernest, au 23 de la rue du Guétrouin, où les appartements sont absolument charmants. Il faut aller voir. Amusez-vous à vous promener rue du Guétrouin pour chercher le 23. Et puis, on a cette flambée de Montparnasse, cette terreur lyonnaise, faut le dire, avec les deux frères qui viennent essayer de récupérer leur sœur, pour que la morale soit sauve. Mais c'est un merveilleux roman, une très, très jolie promenade. Merci, Colin Thibert. Vous avez publié chez Héloïse d'Ormesson une saison à Montparnasse. Merci Myrna Hélou pour votre lecture si fidèle et si jolie. Merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuche, François Dieudonné, Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est mercredi, nous irons au cinéma voir Blanche Houellebecq, Scandaleusement vôtre et La beauté du geste. D'ici là, bonne fête au Joseph, prenez soin de vous et je vous embrasse.
On était tous gosses en ce temps-là, et dame, ça nous rajeunit pas. Tu dois te souvenir, titine, de la galette qui abrita nos premières amourettes.